Ça excite la curiosité. Notre sujet, la grâce chrétienne. En Marie. Alors, c'est toujours important de regarder le point de départ et le terme. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous aide à comprendre le vivant. Or, la grâce doit se comprendre du côté de la vie et non pas du point de vue de l'être. Du point de vue de l'être, on ne peut rien en dire. Puisque la grâce est participation à la nature divine, donc un être divin. Un être divin, le pauvre théologien est muet. L'être divin nous échappe complètement, tandis que toutes les analogies de similitude peuvent nous aider. Et les analogies de similitude sont par rapport à la vie. Je vous l'ai déjà dit, il faut se le rappeler souvent pour essayer de bien comprendre. Parce qu'au fond, une des grandes confusions actuelles qui existent en théologie, c'est cette confusion-là. Plus aucun théologien ne comprend cette distinction. Il y en a quelques-uns, puisque je me mets dedans. Mais au fond, très peu de théologiens. Très peu de théologiens. Au seul choix, on ne m'a jamais fait la distinction. Et dans la traduction des jeunes pour saint Thomas, la distinction entre l'analogie de l'être et des transcendentaux et l'analogie de similitude n'est pas vue. Le père Pignido, oui, l'a vu, mais au fond, les autres n'ont pas. Alors je crois que c'est ça qui est capital dès qu'on fait la théologie. Et la théologie, que ce soit de la théologie, le mode scientifique de la théologie, ou le mode affectif et d'une théologie mystique, c'est toujours une analogie de similitude. Pour connaître le vivant, or la grâce, principe de vie, ça, vous en avez la preuve dans saint Jean. Au début, la première visite de Jésus, du moins la visite de Nicodème à Jésus, « Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. » Donc c'est intéressant de voir que dans l'évangile de saint Jean, Jésus fait une critique sévère au docteur en théologie. Tu es docteur d'Israël et tu ignores ces choses. Je crois que Jésus reviendrait aujourd'hui, il ferait la même critique aux théologiens. Vous ignorez la chose élémentaire de la théologie, ce n'est pas l'analogie de l'être, puisque l'analogie de l'être, on sait que c'est un mystère. Connaît pas. Et cependant, la théologie existe. Elle existe grâce à l'analogie de similitude. Alors, il est toujours très important dans un mouvement, puisque la grâce est principe de vie divine, et qu'il n'y a que dans le Christ où la grâce capitale a été donnée tout de suite, même l'enfant Jésus. l'enfant Jésus n'exerçait pas sa grâce capitale. C'est pour ça que Noël se passe dans l'ombre. C'est intéressant de voir le point de départ et le terme. C'est la première chose que nous allons voir. Comparer le point de départ de la grâce première d'Adam et Ève. Ils sont créés dans la grâce. Et pour eux, pour le développement de la grâce, il y a le paradis terrestre. Je ne sais pas exactement ce que c'est que le paradis terrestre, mais ça devait être quelque chose d'assez bien. Non pas un jardin français ou un jardin anglais, mais c'était mieux. C'était d'une architecture parfaite. Un lieu parfait. Le sommet de l'univers. Dans l'univers, dans notre univers, il y a eu le paradis terrestre. Il a existé. Mais il a été fermé depuis le péché. Il sort du paradis terrestre. C'est la première punition du péché. C'est de sortir du paradis terrestre. Et Jésus sait qu'il y a une mémoire du corps, de la nature, qui fait que l'homme aura toujours envie de retourner dans le paradis terrestre. Je crois que toutes les hérésies, c'est un retour au paradis terrestre. Il faudrait faire ça, c'est une très belle petite thèse à faire. Que toutes les hérésies, c'est une manière de vouloir revenir au paradis terrestre. Et Jésus nous l'indique. Tu vois pas Jésus, mais Dieu nous l'indique. La Bible nous le montre. Il met les chérubins à la porte du paradis terrestre. Si Dieu fait ça, nous pensons que c'est complètement inutile, hein, parce que je sais pas où le paradis terrestre. Et donc les chérubins à la porte du paradis terrestre, je ne les ai pas vus. Moi, je ne les ai pas vus, vous n'avez pas vu non plus. Et cherchez-les, vous ne les trouverez pas. Et cependant, la Bible nous dit, la Bible nous dit qu'il y a les chérubins à la porte du paradis terrestre. Dieu ne fait rien en vain. Si c'est dit dans la Bible qu'il y a des chérubins à la porte du paradis terrestre, ça prouve que l'humanité, Adam dans ses petits-enfants, dans ses arrière-petits-enfants, il y aura cette mémoire du corps du paradis terrestre. J'ai vécu dans le paradis terrestre, en Adam et en Ève, il y a en moi une espèce de mémoire réelle. Hein, il y a en moi un désir du paradis terrestre. Et c'est foncier. C'est très radical dans ma nature. Ma nature humaine a connu le paradis terrestre. Vous n'y avez jamais beaucoup pensé à ça. toutes les hérésies, c'est le retour au paradis terrestre. Un désir du retour au paradis terrestre. Je crois qu'on peut le dire. Je crois. Parce qu'il y a en nous, notre nature humaine, elle vient d'Adam. Elle vient d'Ève. Et en Adam et en Ève, j'ai connu une nature humaine extraordinairement développée, une nature humaine parfaite, une nature humaine qui aime de tout avoir sous la main. Dans le paradis terrestre, j'avais tout sous la main. Et on désire avoir toujours tout sous la main. On fait des avions pour avoir tout sous la main. On fait des bateaux pour avoir tout sous la main. On désire tout posséder. Et il y a les chérubins qui sont là, symboliquement, parce qu'on ne les a jamais vus. Symboliquement, pour empêcher de revenir au paradis terrestre. Ce qui prouve que l'humanité a ce désir foncier, quelque chose de très radical, d'avoir un épanouissement parfait, un épanouissement humain parfait. Et ça renaît constamment sous des formes différentes, toujours. Mais ça renaît constamment, ça. Même à l'intérieur du christianisme. C'est extrêmement curieux, ça. Alors, je regarde le point de départ de ma grâce. De ma grâce de justice originelle. C'est d'être parfaitement adapté à cet univers grâce au paradis terrestre. Le paradis terrestre est dans notre univers et il est la partie que Dieu lui-même a voulu qu'elle soit en parfaite harmonie avec la grâce. Le paradis indique que tout l'univers était finalisé par Adam et Ève. Finalisé en harmonie avec eux et pour eux. Le péché brise cette finalité, puisque c'était par Dieu. Et le péché met l'obstacle. La nature humaine demeure, elle n'est pas atteinte par le péché. Le péché brise l'union avec Dieu et laisse l'homme dans sa solitude et atteint la nature humaine elle-même dans un désordre. Elle met la nature humaine dans un certain désordre. Mon intelligence n'est pas touchée, mais ma volonté, mon amour, lui, est terriblement touché. J'ai en moi un déséquilibre qui est dans mon corps, qui est dans ma nature. C'est ma nature qui est touchée. Et les conséquences du péché touchent la nature. Ne supprime pas le développement personnel. Et le développement personnel, c'est la possibilité d'atteindre Dieu. Mon intelligence est faite pour ça, la vérité. Et on le voit bien par le fait que la première mort qui existe, c'est celle d'Abel. Abel est un saint. Nous le verrons dans l'éternité. Et dans l'éternité, j'espère que vous direz, ah, vous aviez raison de dire ça. Maintenant qu'on connaît Abel. Et Abel est au ciel. Donc le péché n'a pas supprimé cet ordre foncier de la nature vers le ciel, vers Dieu. Il n'y avait plus la grâce. Mais il y avait encore une nature capable de connaître Dieu et de l'aimer. Puisque Abel sacrifié et Caïn était jaloux. Premier péché, la jalousie. C'est le point de vue le plus fondamental du désordre. C'est la jalousie. La jalousie à l'égard d'Abel. Donc la jalousie à l'égard de celui qui, malgré la faute, cherche Dieu et atteint Dieu et l'aime. C'est très curieux de voir le premier péché dont le fruit tout de suite est la jalousie. Une jalousie religieuse. Une jalousie religieuse. C'est l'Europe qui est en plein dedans actuellement. Puisqu'elle ne veut pas qu'on parle de Dieu. C'est par jalousie religieuse. Et on tue Abel. On le fait plus proprement que Caïn. Mais on le fait de la même façon. On l'a fait d'une façon très civilisé. On ne peut plus, si on est vraiment conscient de son appartenance à la communauté humaine, on ne peut plus, on n'a plus le droit de parler de Dieu. Au nom de la jalousie. Ces lois qui se cherchent pour l'Europe, ce sont des lois produits du péché originel et qui représentent la jalousie de l'homme par rapport à Dieu. Je crois que c'est très important pour nous d'essayer de voir ces deux. Ce qui est important, c'est de voir que la grâce première de justice originelle était une grâce d'harmonie parfaite entre la nature humaine et la fin surnaturelle. Et divine. Il y avait une harmonie parfaite. Et nous la voyons dans la grâce, ou plutôt nous la voyons dans Abel. La grâce a été supprimée, mais la nature humaine est restée bonne. En ce sens qu'elle était encore capable de découvrir Dieu. Donc, elle avait encore en elle une bonté fondamentale. Qui hélas, devait se développer en face d'une jalousie farouche. Si nous sommes la fin de l'humanité, la fin d'une humanité, c'est-à-dire la fin d'une civilisation, on retrouve ce qui était au point de départ. La grâce chrétienne commence en Marie. C'est Marie qui est la première dans une grâce chrétienne qui doit progresser. La grâce chrétienne, elle est première dans le Christ, c'est sûr, mais dans le Christ, l'alpha et l'oméga sont identiques. Si je veux regarder ce qu'il y a de propre à la grâce chrétienne, je dois regarder son point de départ. Et son point de départ, c'est Marie dans sa maternité à l'égard de Jésus. Il n'y a pas de paradis terrestre pour cette nouvelle grâce. Cette nouvelle grâce ne touche pas le monde bousculé, désordonné par le péché premier. Jésus est né dans un monde désorganisé. Et Dieu, dans ce monde désorganisé, pour Jésus, n'a plus de lieu propre. Ça m'étonne toujours. Et ça doit nous étonner beaucoup que pour l'homme, Dieu a préparé l'univers avec le paradis terrestre et que pour son Fils bien-aimé qui s'incarne pour nous, Noël, il n'y a pas de paradis terrestre préparé pour le recevoir. Il y a tout simplement dans la nature humaine le cœur de Marie, le cœur de la mère. C'est le premier milieu. Jésus a eu comme premier milieu Marie. La grâce chrétienne a eu comme premier milieu Marie, la maternité de Marie. Et cette maternité, elle a existé pour un temps. Elle a existé. Et elle existe toujours. Pour l'Église. Et le lieu d'univers, dans l'univers, il n'y a pas eu un lieu particulier pour recevoir Jésus. Et le seul lieu que Joseph a trouvé, c'était une étable. Joseph a bien choisi. Il n'a pas été trop vite. Il a bien choisi. Il n'y avait pour lui qu'un seul choix pour la naissance de Jésus, du Dieu fait homme. Il y avait la solitude à l'égard des hommes et la communauté avec le genre humain, le genre animal. Ça doit nous faire réfléchir sur ce que c'est que la grâce chrétienne par rapport à la nature. Comparativement à la grâce de justice originelle. Ça, il faut y réfléchir. Noël, parce que ça nous fera comprendre le propre de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne, la grâce du Christ et de Marie, n'exige pas un contexte préparé par Dieu, adapté. C'est la nature humaine parfaite, pure, sans péché, pour Jésus et pour Marie. Mais cette nature humaine, elle est dans un monde qui, conséquence du péché originel, est désordonné. Et la marque de ce désordre, c'est que quand la nature humaine, quand la nature et la nature humaine reçoit son roi, le roi des rois et seigneur des seigneurs, elle le reçoit comme elle peut le recevoir, dans la pauvreté. Une pauvreté extraordinaire, Noël, puisque ce que les hommes on peut faire pour rendre la nature plus agréable, plus en harmonie avec la naissance d'un enfant, n'est même pas fait. C'est ce qui est fait pour le repos de la nature animale qui est mobilisé par la sagesse divine comme lieu recevoir le chrétien, le Fils de Dieu, pour recevoir la reine, celle qui est première dans la grâce chrétienne. Vous voyez, réfléchissez sur cette espèce de contraste du point de départ. Comme cela est visible pour nous, la grâce de justice originelle réclame l'harmonie de la nature et de la grâce. la grâce chrétienne, celle du Christ et celle de Marie, leur point de départ. Il n'y a plus cette harmonie entre la grâce et la nature. La grâce a une dignité de grâce qui est plus forte que la grâce de justice originelle. Mais cette grâce est reçue dans l'âme de Marie, dans l'âme de Jésus, d'une manière telle que la nature humaine en Marie, comme en Jésus, est prise dans un désir, une orientation humaine qui n'est pas adaptée à la grâce qui reçoit la grâce et qui n'est pas adaptée du tout. Il y a une désharmonie complète entre la nature humaine et la grâce. Même en Marie, où il n'y a pas les conséquences du péché, c'est très étonnant. Et cette grâce a une qualité de grâce plus parfaite que celle de la grâce de lui, de la justice originelle. Pourquoi ? Toutes les deux sont grâce, c'est-à-dire toutes les deux sont ordonnées à la vision béatifique. C'est le propre de la grâce. La ratio gratiée est ordonnée à la vision béatifique. Mais cette raison de grâce se réalise dans un mode tout à fait nouveau qui n'est plus celui de la justice originelle, un mode nouveau, une exigence nouvelle de la grâce qui n'est pas d'assumer la nature humaine d'une façon parfaite, qui est d'assumer la nature humaine non pas en harmonie avec la finalité divine, mais de nous faire comprendre que cette finalité de la grâce chrétienne est une finalité qui assume la nature, mais l'ordonne vers une fin toute gratuite, qui n'est plus en harmonie avec la nature humaine. C'est quant à son mode qu'on peut voir la différence. ratio de la grâce est toujours la même, mais son mode est différent. Mode de juste originel, c'était une grâce qui était en harmonie parfaite avec la nature humaine d'Adam et d'Ève. Ici, cette grâce n'est plus en harmonie parfaite avec la nature de Marie et celle de Jésus. Il y a une exigence finale, toute différente. Ceci se voit, se manifeste du fait que cette grâce chrétienne assume le corps humain d'une manière telle que ni l'intelligence ni la volonté humaine ne peuvent être parfaitement transformées, harmonisées avec la fin surnaturelle. Vous voyez la grande différence qu'il y a. C'est que la grâce de justice originelle était donnée en harmonie parfaite. Elle réalisait en elle une harmonie parfaite entre la nature et la grâce. Tandis que là, nous sommes en présence d'un hiatus entre l'exigence de la nature en Marie et l'exigence de la grâce surnaturelle, qui fait que cette exigence de la grâce transforme en l'élevant, transforme la nature humaine d'une manière qui ne soit plus en harmonie parce que le but de cette grâce n'est pas en premier lieu ou en second lieu de nous harmoniser à l'ordre divin, de ne pas harmoniser la nature humaine à l'ordre divin, de saisir la nature humaine d'une façon plus radicale, plus profonde, et de l'orienter immédiatement et directement vers la vision béatifique. Vous voyez, il y a là quelque chose qui serait très intéressant à étudier de près, parce que ça nous permettrait de bien découvrir ce qu'il y a de propre à la vie chrétienne. C'est visible pour nous du fait que la grâce de justice originelle, l'univers du paradis terrestre, faisait qu'il y avait une harmonie entre les exigences de la grâce et les exigences de la nature. Alors qu'ici, c'est dans la pauvreté que Noël se passe. C'est dans la pauvreté que se réalise cette harmonie entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. C'est une pauvreté qui affecte la nature. Et non pas une harmonie, une richesse. C'est une richesse, mais dans la pauvreté. Et le contexte est là en harmonie parfaite avec cette exigence de pauvreté. Cette pauvreté est voulue par Dieu pour nous montrer que cette grâce chrétienne n'est pas immédiatement en harmonie avec la nature humaine. Elle met dans la nature humaine un appel, un ordre plus profond que la grâce originelle. Et qui fait qu'il y a un hiatus, il y a un abîme entre cette exigence de la grâce et l'exigence naturelle de la fin, de la fin humaine, de la naissance humaine. Je crois que c'est la première chose qu'on doit constater, ça, pour comprendre, du moins pour découvrir le caractère particulier de la grâce chrétienne. Elle met la nature humaine dans un état de pauvreté. Elle ne met pas la nature humaine tout de suite dans un état de perfection. La nature du Christ est parfaite. La nature de Marie est parfaite, mais non pas en raison de la grâce, mais en raison du caractère particulier de la personne du Christ, et en raison du caractère particulier de la personne de Marie. Vous voyez, la grâce de justice originelle était donnée à la nature humaine. La grâce chrétienne est donnée à la personne. C'est là la grosse différence. Et c'est pour cela que d'un côté, la nature implique un état de perfection, alors que de l'autre côté, la nature implique une grande pauvreté. Je crois que c'est le premier caractère. On en verra les conséquences. Ça fait comprendre pourquoi Jésus, quand il proclame les béatitudes, proclame première béatitude, bienheureux les pauvres. C'est révolutionnaire par rapport à la justice originelle. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le pourquoi, c'est que la grâce est donnée à la personne. La grâce du Christ, c'est la personne du Verbe. Et la personne de Marie, c'est la personne pleine de grâce. Je te salue Marie, pleine de grâce. Nous avons là tout de suite, je crois, quelque chose de très important à voir, que la grâce chrétienne à ce mode personnel. Dans tout son développement, mais dans le point de départ, elle a un développement qui doit se faire d'une façon personnelle. Alors que la grâce de justice rue, de justice première, c'est vraiment la nature pour elle-même dans son développement. Elle a quelque chose de très important, je crois, à saisir. C'est très normal que saint Thomas n'en parle pas. Puisque saint Thomas avait comme fonction de montrer les rapports de l'intelligence là. Et de nous donner, il le dit, les choses premières, principales des principes. Mais toute la théologie mystique doit nous donner cela. Un traité de la grâce. Chrétienne, c'est de montrer ce premier moment de la vie.